France Inter.
Le principal ou la principale adjointe, c'est des hauts placés dans l'établissement. Et du coup, quand on va leur demander une question, c'est pour que ce soit un truc d'important. Mais là, vu qu'on a eu ce micro dans les mains et ce statut de journaliste, on a pris en confiance. Et quand on leur parlait, ils nous écoutaient. Car ils devaient nous écouter, car nous étions journalistes.
En fait, je pense que c'était pas nous qui leur parlaient, mais c'était des journalistes qui allaient passer en France Inter.
Interclasse. Éric Valmire sur France Inter.
Quand vous êtes malade et que votre toubib est incapable de poser un diagnostic, que faites-vous? Vous allez voir un autre généraliste afin d'avoir une idée précise du mal dont vous souffrez. Eh bien, pour l'information, c'est à peu près pareil. Au premier temps du confinement, quand on attendait des journalistes des décryptages sur cette crise inédite et qu'ils n'étaient pas en mesure de répondre, quel était le premier réflexe? D'aller voir ailleurs, d'obtenir une réponse qui parte d'une hypothèse crédible, même si elle ne reposait sur aucune assise scientifique. C'est là toute la force de la désinformation. Profiter d'une confusion pour prospérer dans les zones de l'ignorance, désavouer les scientifiques aux travaux certifiés et mettre sur un piédestal celles et ceux dont les études ne sont pas reconnues par leur père et n'ayant pas fait l'objet de tests cliniques. Car la parole de la science avec ce distinguo officiel, celui qui sonne élite qui porte la pensée unique et qu'il faut renverser. Pour faire entendre la voix que l'on cache, celle qui dit par exemple que le virus Covid a été fabriqué par laboratoire, ou alors celle qui énonce cette idée très répandue chez les jeunes, selon laquelle, oui, la Terre est plate. Parce que sinon, comment marcher sur un ballon à moins d'être un équilibriste ? Imparable. Trouver son chemin dans la tempête et le brouillard de la désinformation est donc un défi. On croit savoir, mais on ne sait rien. On croit. Mais la croyance n'a rien à voir avec le fait, la valeur cardinale de toute information, fiable et vérifiée. Distinguer le fait de la croyance, et croyance pas seulement religieuse, différencier en fait le réel du virtuel, débusquer les fausses informations, a été un axe de travail majeur dans les salles d'interclasse à travers toute la France, où sont intervenus journalistes, producteurs, techniciens auprès des collégiens et lycéens. Ceux du lycée Pro Gallieni à Toulouse ont eu la chance de se rendre à la Cité de l'Espace avec Sophie Becherel, chef du service Sciences, Santé, Environnement de France Inter, car les questions relatives à l'univers, cette immensité à explorer, grouillent de désinformation.
De quoi vous vous souvenez de la Cité de l'Espace?
Là-bas, ils ont un bout de la Lune exposé pour qu'on l'observe. C'est bizarre parce qu'il n'est pas blanc, il est noir un peu.
Pourquoi tu imaginais qu'il serait blanc?
Parce que la Lune, elle est blanche un peu. Enfin, elle a l'air plus claire. Moi, ça m'a beaucoup plu. Je trouve que c'était bien, c'était intéressant. Et en plus, ceux qui nous ont fait visiter, ils nous ont mis à l'aise. Enfin, c'était chaleureux, c'était bien. J'ai bien aimé.
Moi aussi, ça m'a beaucoup plu. On a appris plein de choses. C'est vrai qu'ils étaient accueillants. Je me suis senti à l'aise.
Et il valait mieux être accueillant pour déambuler dans ce décor lunaire à tout point de vue. Un parcours immersif dans la peau d'un moonwalker. Il marche sur la Lune comme en vrai, pour reprendre cette expression chérie des collèges. Et forcément, avec Olivier Sanguy, médiateur scientifique de la Cité de l'Espace à leur côté, les questions fusent.
Comment la pierre allait transporter?
Donc la pierre a été transportée dans des sacs, dans des containers spéciaux. Ils avaient un équipement de géologue, hein, ils cassaient des pierres avec des marteaux, etc. Où ils faisaient ce qu'on appelle des carottes dans le sol, c'est-à-dire ils plongeaient un instrument qui ressortait un morceau de sol, comme ça, par exemple d'un mètre. Et ils mettaient ça dans des sacs, précautionneusement, et dans des caisses. Et surtout après, ils n'y touchaient plus, il y avait que les scientifiques qui avaient le droit d'ouvrir pour s'assurer que c'était pas contaminé en gros. Parce que plus on touche un échantillon, plus il perd les informations qu'il a. Par exemple, si on le touche trop, qu'est-ce qu'on va analyser? On trouve du caoutchouc dessus. Tiens, il y a du caoutchouc sur la Lune. Ben non, c'est le caoutchouc des gants. Donc on fait attention quand on prélève les pierres lunaires.
Est-ce qu'on peut coloniser la Lune?
C'est une question sur laquelle il y a eu un débat dès le début de l'exploration spatiale. Et il y a eu un traité signé dans les années 60, le traité de l'espace, qui déclare que la Lune ne peut pas être appropriée par un État ni même par des personnes. C'est-à-dire un État ne peut pas dire « je veux ce morceau de Lune ». Donc un État ne peut pas arriver et dire « tiens, je me mets là, maintenant c'est le sol américain ou le sol russe ou le sol chinois ». Voilà, c'est l'État. Maintenant, il y a un petit problème. C'est que quand même, la Lune, bah, c'est comme une plage. La plage, elle appartient à personne. Hein. En France, c'est le littoral. Mais si tu arrives en premier, c'est toi qui as le meilleur endroit sur la plage. Normalement, les gens, ils vont pas dire « poussez-vous ». Ça veut dire que demain, une mission qui se pose sur la Lune, là où elle est, bah, personne ne peut s'y mettre. Il y est déjà. Donc, il y a un petit peu un droit d'usage. Je suis le premier à cet endroit-là. Bah, maintenant, il est à moi. Enfin, il est à moi. Non, il n'est pas à moi, mais j'y suis. Personne ne peut prendre ma place. Et donc, les États-Unis ont lancé il y a quelques années ce qui s'appelle les accords Artemis pour essayer de résoudre ce vide juridique qu'il y a. Et notamment, ils ont établi ce qu'on appelle une zone de sécurité. C'est-à-dire, quand on est sur la Lune, le principe, c'est de dire, j'ai un engin sur la Lune, habité ou non d'ailleurs, et il y a un périmètre de sécurité autour, on n'a pas le droit de s'y poser, parce que quand on se pose sur la Lune, on peut abîmer un objet qui n'est pas loin. Quand on se pose sur la Lune, l'engin qui va se poser va soulever énormément de poussière, et cette poussière peut arriver à de fortes vitesses et abîmer un engin qui est déjà sur place.
Est-ce qu'un corps peut se désintégrer sur la Lune?
Alors, sans combinaison, en fait, on va mourir en quelques secondes. Il ne va pas se désintégrer, mais le résultat ne va pas être beau à voir du tout, parce que exposé au vide, déjà, le sang va se mettre à bouillir. Alors, pas à la température qu'on peut imaginer, mais il va y avoir des bulles. Ensuite, le côté exposé au soleil peut monter à 180 degrés, le côté exposé au froid à moins 120 degrés. Donc, on va à la fois chauffer et geler, et on va avoir les liquides du corps qui vont bouillir, et tout l'air des poumons qui va sortir. Donc, en quelques secondes, c'est la mort. Et le résultat, je pense, sera pas très joli à voir.
Donc, pour rester en vie, le scaphandre est l'accessoire indispensable. Et il en existe de toutes sortes.
Là, on est face à un scaphandre américain. Alors déjà, la couleur blanche. Le principe, c'est de protéger un astronaute qui va dehors dans l'espace. Donc le but, en fait, ça ressemble à un habit. Hein, on voit un casque, des bras, un torse, deux jambes. Presque une combinaison de moto, on va dire. Sauf que, il faut que, en gros, c'est un mini vaisseau spatial. Ce qu'on voit, là, ça le protège du vide, ça maintient de l'air, ça fait de la pression atmosphérique, ça maintient une température acceptable.
Moi, je trouve que l'esthétique, ça représente le pays, donc pourquoi pas mettre en valeur l'esthétique aussi?
Là-dedans, avant tout, c'est que les gens restent en vie dans l'espace. L'Agence spatiale européenne a lancé un concours en ligne et ils ont posé une question à des designers, attention, pas des techniciens, pas des ingénieurs, vraiment à des designers, des gens de la mode, ils ont dit... Qu'est-ce qui ferait qu'un scaphandre européen serait immédiatement perçu comme European style, de style européen? Et là, la question est intéressante parce que quelque part, au départ, c'est une question qu'on ne se posait pas. Est-ce qu'on peut faire un scaphandre où au premier coup d'œil, on se dit « ça, c'est quelque chose de culture européenne, plutôt qu'américaine, plutôt que russe ». Est-ce que c'est possible, étant donné les contraintes techniques? On va voir ce que ça va donner.
Et du coup, c'était quoi la différence entre russe et américain?
Les différences principales dans l'esthétique, c'est d'abord la couleur. Les Russes ont choisi une couleur beige clair, les Américains une couleur blanche. La couleur blanche américaine, notamment, c'était parce que sur la Lune, c'était ce qui permettait de réfléchir le plus la lumière du soleil. Donc c'était assez important. L'autre différence, c'est au niveau donc de l'entrée. Dans un scaphandre russe, on rentre par l'arrière, on ouvre le sac à dos et on rentre comme dans une salopette, comme ça a été dit. Dans celui-là, en fait, le scaphandre se coupe au niveau de la taille, on enfile le pantalon, puis on enfile le haut. Résultat, normalement, un scaphandre russe, on peut le mettre tout seul, mais c'est difficile, mais on peut y arriver. Un scaphandre américain, c'est quasiment impossible, il faut une aide.
C'est quoi les matériels utilisés pour faire le scaphandre?
Alors, c'est du multicouche. Donc, c'est-à-dire qu'on a des matériaux comme du millard, du kevlar, etc. Et en fait, là, il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'un seul tissu. Il y a un empilement de couches, et chacune des couches a une fonction précise. La première couche, c'est du caoutchouc. C'est pour que l'air ne s'échappe pas. C'est l'étanchéité et assurer la pression. Et après, on a des couches qui assurent rigidité, solidité, protection contre les micrométéorites, protection de chaleur, etc. Et éviter aussi, par exemple, sur une station, on peut s'agripper, ça pourrait se déchirer, donc le matériau doit résister. Donc en fait, il y a plusieurs couches de protection pour que même si on déchire quelque chose, ce ne soit pas tout de suite grave.
La Lune, on a marché dessus, enfin l'homme, la planète Mars, c'est une autre histoire. Inspiration infinie des œuvres de fiction, des chroniques martiennes de Ray Bradbury au Total Recall, de livres adaptés au cinéma, les imaginations sont fertiles. Le petit homme vert a souvent incarné à lui seul l'individu extraterrestre. Pour en finir avec les fantasmes martiens, la Cité de l'espace a aussitôt reproduit l'univers de la planète rouge avec une présentation des rovers Perseverance, les robots. Vous savez, ces robots actuellement en mission sur Mars. Et Simon, animateur scientifique, est intarissable sur le sujet.
On a voulu créer un environnement qui ressemble le plus possible à la planète Mars pour y faire évoluer des robots qui sont des répliques, des robots qui sont réellement sur Mars. Notre objectif, c'était quoi? Notre objectif, c'était de pouvoir aussi montrer au grand public ce qui se passe. On entend parler d'exploration martienne, de robots, on voit des images de robots à la télé, mais on ne se rend pas toujours compte de leur dimension réelle, de pourquoi on les envoie, de ce qu'ils font là. Et donc ça, c'est notre travail à nous. Et pour faire ça, comment on s'y est pris? On a commencé par contacter les équipes des laboratoires toulousains qui travaillent sur la planète Mars et sur les rovers martiens. Donc eux nous ont conseillé de nous appuyer sur une formation géologique qu'ils ont trouvée sur Mars, qu'ils ont baptisé le Mont Merkou. Donc c'est l'endroit où le rover Curiosity a évolué en 2014, et qui ressemble donc au rocher que vous avez autour de vous. Pourquoi le Mont Merkou ? Parce que c'est une zone sur laquelle Curiosity a pu prouver, alors volontairement je vous dis pas encore de quoi il s'agit, ce que j'aimerais voir si vous, vous arrivez à, en tout cas à deviner qu'est-ce que cette zone a pu apprendre aux géologues. Je vais vous aider un petit peu, ce qui nous intéresse, ce sont toutes les stries horizontales.
Qui avaient de l'eau.
Exactement. Donc, ces fissures horizontales, c'est en effet des traces d'écoulement d'eau, en général. Quand on cherche de la vie sur Mars, un des ingrédients principaux que l'on recherche, bah, c'est l'eau. Sur Terre, on sait que la vie a commencé, à ses prémices, en tout cas au fond des océans. Donc on se dit que s'il y a eu de la vie sur Mars, c'était probablement là où il y avait de l'eau liquide. Donc voilà pourquoi ces lieux-là sont si intéressants. Alors, avoir de l'eau liquide ne veut pas dire qu'il y a eu de la vie. Si vous voulez, c'est la différence entre l'habitabilité et la présence de vie ou pas. Vous saisissez là la différence entre les deux ? Les conditions de vie et la vie ? Un exemple. Si j'ai à la maison du beurre, du chocolat, de la farine, du sucre et des œufs, j'ai toutes les conditions pour faire un gâteau au chocolat.
Mais vous n'avez pas le gâteau.
Mais j'ai pas forcément le gâteau. Ça veut pas dire que je l'ai fait. Mais en tout cas, à un moment, j'ai la possibilité que ce gâteau existe. Est-ce que la recette a eu lieu ? Je sais pas. Mais en tout cas, ça a été prouvé que Mars a été habitable. Aujourd'hui, on est à l'étape suivante, c'est-à-dire chercher s'il y a eu de la vie. Et à chaque fois qu'on franchit une étape, ça signifie en fait une mission supplémentaire avec les instruments qui vont avec, et en général avec un rover qui va explorer la planète Mars. Nous, on a construit ce décor pour y faire évoluer des rovers. On va voir un petit peu à quoi ils ressemblent et ce qu'ils savent faire.
Les élèves de seconde du lycée Gallieni approchent donc des robots, s'émerveillent autour, et puis cette question de la trace de vie évoquée par Simon taraude encore les esprits et se manifeste alors le besoin de revenir sur le sujet.
Vu que sur Mars, il y a eu de l'eau, ça veut dire qu'il y a eu de la vie alors ?
C'est toute la question. On sait que sur Terre, l'origine de toute la vie terrestre aujourd'hui, elle apparaît au fond des océans il y a plusieurs milliards d'années. Et avec le temps, ces petites vies microbiennes, en effet, vont se développer, vont se complexifier, vont commencer à former les premières formes de vie aquatique un peu développées, les premiers vertébrés, etc., etc., jusqu'à en arriver aujourd'hui, des milliards d'années plus tard, à la vie qu'on connaît sur Terre. On sait que s'il y a eu de la vie sur Mars, elle n'a pas pu durer suffisamment longtemps pour évoluer jusqu'à des formes de vie complexes comme ce que nous, on a aujourd'hui sur Terre. Donc ce que les scientifiques recherchent, c'est des traces de vie microbienne laissées dans des roches martiennes il y a plusieurs milliards d'années, qui se seraient fossilisées et qui auraient tenu le coup jusqu'à aujourd'hui. Autant dire que pour chercher ça, c'est pas gagné, hein. On ne cherche pas n'importe où. C'est pour ça que Perseverance, il n'a pas été envoyé au hasard. Il a été envoyé dans un cratère qui s'appelle le cratère J0 et que l'on sait avoir été dans le passé un très grand lac dans lequel il y a eu beaucoup d'eau qui a stagné pendant longtemps, qui pourraient être des endroits où des colonies microbiennes se seraient développées.
Il est certain qu'après une journée à la Cité de l'Espace de Toulouse, on en sort avec un socle de savoir enrichi, mais aussi avec des questions sans réponse que l'on doit laisser sans réponse.
Dans l'univers, il y a des milliards de vies, sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie, et puis tata par le vice, mais c'est toi que je veux.
Il y en a plein, mais il y en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Pourtant, dans l'univers, il y a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Et même si notre amour raté devait renaître demain, elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers, il y a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je
pensais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sépare.
On se dégoûte, on se combat jusqu'à ce qu'on bouffe les puissants lits. Notre couple succomba, ce désir puissant puis s'ennuie. Et le désir disparaît en même temps que la possession. Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession. J'y passerai seul la nuit sous le trait d'un jeune homme manqué. Quand la lune dort, le soleil lui, moi je ne vois qu'elle. Il y a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Cette danse que ta lumière peut apprendre à mon ombre. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom.
Nekfeu et Vanessa Paradis dans l'univers, quelque part en orbite autour d'Interclasse. Le fait ou la croyance, dépasser la caricature, ce n'est pas pour rien si de nombreux groupes d'élèves à travers la France ont voulu travailler sur ce sujet. Le jeune, dans son entité de jeune, n'est-il pas enfermé dans un carcan fait d'idées reçues? Et je ne parle même pas des établissements scolaires en fameuse REP+, tous les préjugés autour des quartiers prioritaires. Un préjugé qui n'est plus tenable à Villefranche-sur-Saône. Deux élèves de 3e, Camille et Abdou Raouf, ont tenu à redorer l'image du collège Jean Moulin.
Ouvrez le banc.
J'ai un avis très 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 clair hein, sur le collège Jean Moulin, parce que j'en fus en plus un élève, et à l'époque déjà le collège avait mauvaise réputation. Ça m'a pas empêché d'y passer deux très belles années, d'y rencontrer des gens merveilleux, des enseignants qualifiés.
On vient d'écouter Thomas Ravier, le maire de Villefranche. Le maire est venu au collège pour une cérémonie en l'honneur de la résistance. On est dans la cour du collège Jean Moulin, un établissement public qui a mauvaise réputation, la raison sa classification REP+. Alexis Vallon, principal du collège, nous explique ce qu'est un REP+.
Les classifications REP+, ce sont des classifications qui sont liées au public qui est accueilli par les établissements et qui correspondent à des critères sociaux. Un réseau d'éducation prioritaire plus, un établissement pour lequel on amène plus de moyens, que ce soit des moyens financiers ou des moyens humains, parce que du fait de la difficulté sociale, on considère qu'il faut donner plus à un public qui a besoin de plus.
Malgré la mauvaise réputation du collège, il en sort une dynamique positive. C'est en tout cas ce que laisse entendre le maire de la ville.
Quand l'environnement, des fois, est un petit peu plus difficile, on y déploie aussi un peu de trésor, de créativité, d'énergie, d'astuces supplémentaires. On le voit finalement, en ce jour-là, on a une commémoration avec la ville, avec tout ce que compte la ville d'autorité civile, militaire, pour commémorer la journée de la résistance. Il y a des classes de Jean Moulin qui sont sur les planches du théâtre, scène nationale, pour un concours littéraire. Oui, c'est des établissements des fois qui ont une réputation un peu particulière. Il suffit de pousser la porte pour se rendre compte que certes il y a de l'énergie, mais aussi beaucoup d'énergie très positive, heureusement. Et ça nous rend plutôt très fiers de cet établissement.
Un reportage avec le concours de Valentin Briard du CFJ Lyon. Fait ou croyance, réel ou virtuel, info ou propagande, le théâtre de guerre par définition englobe aussi une ligne de front qui est celle de la communication. Comment en démêler les fils? Les lycéens d'Interclasse ont souhaité rencontrer les grands reporters entre deux de leurs missions en Ukraine. Parmi eux, Omar Waman de la rédaction internationale de Radio France, Stéphanie Pérez de France 2 et tout de suite Boris Loumagne de France Info.
Les sirènes qui retentissent à Kiev, capitale de l'Ukraine, la guerre est déclarée. La Russie a déclenché une opération militaire de grande envergure sur tout le territoire ukrainien.
Nous vaincrons toutes les menaces. Bombardements, missiles, drones kamikazes, panne d'électricité, froid. Nous sommes plus forts que tout cela.
On était dans le Donbass, on était dans une ville qui s'appelle Sloviansk et on voulait faire des reportages un petit peu autour de cette ville. Et on est arrivé au moment où il venait juste d'y avoir un bombardement. C'était dans un tout petit village et il y avait un missile qui était tombé au milieu de la route. Et à ce moment-là, il y a une voiture qui passait et le missile est tombé sur cette voiture. C'était un civil, c'était quelqu'un qui avait rien demandé à personne, qui était même pas un soldat, mais il était là au mauvais moment, au mauvais endroit. Et on est arrivé à ce moment-là, on a vu le corps de cet homme qui était sorti de la voiture, probablement en rampant, et qui était allé mourir à quelques mètres de la voiture. La voiture explosée, le cadavre de cet homme, des ruines un petit peu partout autour, une supérette avait été touchée également. Il y avait quelques policiers. Et très vite, on s'aperçoit qu'il y a des villageois qui passent à côté du cadavre de cet homme qui devait probablement connaître parce que le village était tout petit, et qui s'arrêtait même pas, qui regardait même pas, qui était là, bon, on a vu quelqu'un passer avec son vélo, il a slalomé entre les ruines, il est parti. On a vu une petite mamie qui est arrivée, qui a demandé au policier, elle est ouverte la supérette, est-ce que je peux aller acheter mon pain? Alors qu'il y avait un mec qui était mort juste à côté. On a vu un papy qui est sorti dans la rue, il nous a vu, il est parti chercher des petits pots de miel, ce qui fait du miel lui-même. Et il nous a ramené ces petits pots de miel. Ah, tenez, je vous offre du miel. Il y avait le cadavre qui était juste à côté. On s'est dit, mais c'est quand même fou. Parce que la guerre peut provoquer sur les gens. Moi, j'étais halluciné de voir cet homme-là comme ça. C'était un choc de voir ce cadavre-là. Mais ces gens-là, qui vivent dans la guerre depuis des années, ils sont habitués à toute cette horreur, à toute cette misère.
Des questions. Vous voyez la réalité du terrain selon votre regard? Et est-ce qu'au moment de raconter les faits, ou même lors d'une prise de témoignage, vous laissez cette part de subjectivité qui, j'imagine, peut diriger dans un sens comme dans l'autre votre récit? Et en d'autres termes, quelle place vous accordez à la subjectivité au moment de raconter les faits et plus largement pendant votre expérience sur le terrain?
Moi, j'y crois pas trop à l'objectivité. Moi, ce qui me porte, c'est l'honnêteté. Dire les faits tels qu'ils sont, pas tels que je voudrais qu'ils soient. C'est trop facile, ça s'appelle de la propagande. Hein.
De toute façon, par définition, on va forcément être subjectif, puisque vous nous mettez sur la même scène de reportage, on ne va pas la raconter de la même façon. On va chacun avoir nos émotions, notre vécu, notre perception, notre sensibilité, notre passé, ce qui fait qu'on va décrypter les faits de notre façon à nous.
D'autres questions?
Non, on ne va pas leur laisser le choix, Eric.
Non, tu veux poser une question?
Non, laisse pas le choix. Question. Vous allez chercher des informations et vous les donnez genre à votre supérieur et après ils en font ce qu'ils veulent, ou ça se passe d'une autre manière?
Bah, c'est justement là le travail de la rédaction, c'est-à-dire que le moment où on recueille une information sur l'Ukraine, on a un peu plus de liberté, je dirais, sur les reportages quand il n'y a pas d'enjeu capital d'information extrêmement importante à vérifier. Quand on raconte nos histoires, qu'il n'y a pas forcément de faits, de chiffres à vérifier, on est assez libre. Malgré tout, le reportage, quand on l'envoie, il est visionné par la rédaction en chef, qui va nous dire, ouais, cette partie-là, c'est un peu trop long, cette interview-là, on la comprend pas bien, on voudrait plus court, plus long. Donc, il y a quand même toujours un travail d'échange. C'est ce qui permet, normalement, de mettre en place des pare-feux pour éviter de dire des erreurs, des bêtises à l'antenne. Ça peut arriver, mais normalement, il y a pas mal d'étapes, de niveaux qui permettent justement de verrouiller toutes les informations qu'on va donner.
Est-ce que vous êtes toujours bien accepté par les populations locales dans les zones de conflit lorsque vous faites vos reportages?
À un moment donné, les gens, ils ont autre chose à faire que de répondre à nos questions. C'est la guerre, hein. Il faut qu'ils sauvent leur vie, leur bien. Donc, faut se mettre à leur place. Imaginez, vous êtes en train de fuir une zone, vous êtes bombardé. Il y a un gars qui arrive avec sa caméra ou son micro qui fait non, du respect et de l'humilité. Voilà, c'est très important. Après, ça marche, mais moi, j'accepte souvent quand quelqu'un me dit je veux pas parler, j'insiste pas. Hein. Je dis bon, bah, très bien, je respecte. Au revoir, monsieur, bonne chance.
Interclasse, Éric Valmire. Sur France Inter.
S'agissant de la guerre en Ukraine, on parle beaucoup de la guerre à nos portes, la guerre en Europe. Sauf qu'on ne doit pas oublier une Europe d'outre-mer. Et sur l'île de la Réunion, les lignes de front sont à des milliers de kilomètres. Ce qui n'empêche pas les élèves du collège Joseph Soico à Petite-Île de s'interroger sur les conséquences de la guerre en Ukraine. Par exemple, cette pénurie de moutarde sur l'île que l'on imputait au conflit. Les collégiens réunionnais ont mené l'enquête et les causes étaient à chercher ailleurs. Ils ont donc abordé un travail de fact-checking, de vérification des faits, tout comme ils ont éliminé d'emblée la possibilité d'une attaque russe sur le sol réunionnais. Encore que, dans ce monde, rien n'est impossible. Calvin, Jerry et Taïtoa avec Sophie Persson de Réunion la Première.
Je sais que c'est loin et je pense qu'il n'y a aucun intérêt à attaquer la Réunion vu qu'on produit juste du sucre. Le sucre, on peut s'en passer pour beaucoup de choses, donc autant viser une meilleure puissance pour envoyer un missile ou je sais pas, ou attaquer, pour attaquer plus Paris plutôt que la Réunion parce qu'on ne sert à rien. Donc.
Qu'est-ce que vous avez appris finalement là en travaillant sur Interclass Qu'est-ce que tu retiens toi de l'aventure là?
Alors bah déjà c'est une bonne expérience quand même de faire une radio, de travailler avec des journalistes. Bah, on sait c'est quoi leur métier, on sait qu'est-ce qu'ils font tous les jours en fait. On apprend des choses sur la guerre en Ukraine. Par exemple les pénuries et tout ça, on pensait que ça venait de la guerre en Ukraine mais alors que non. Et plein de choses comme ça, on découvre des choses. En fait, on découvre les vraies informations en fait. Parce qu'on entend des choses tous les jours mais c'est pas forcément vrai. Et du coup il faut toujours se renseigner en fait. Il faut toujours aller chercher par nous-mêmes pour vraiment voir c'est quoi la vraie raison, faut pas écouter ce que les autres disent en fait.
C'est quand même une chance dans une vie de faire ça, c'est l'occasion se représentera pas, il faut profiter.
Oh oui, en profiter, d'autant qu'en plus, ils prennent les platines. Move your body, voici Gabriel sur Inter, gloire à toi.
Let me tell you a story of a girl up in glory. She had the world in her hand. Even Hades was a fan. You can fake it for a little while when you're lying to yourself. You pretend and you try to hide from the cards that you've been dealt.
La musique de Gabriel sur Inter. Distinguer le fait de la croyance, les jeunes d'Interclass ont voulu approfondir ce sujet. Et quand on parle croyance, on pense tout de suite à croyance religieuse, signe extérieur. La polémique ces dernières semaines autour de l'abaya, ce vêtement féminin long qui recouvre les autres habits et que l'on porte dans les pays musulmans. Le sujet était dans toutes les cours de récré. Nous sommes dans le studio de France Inter à Lyon, avec deux collégiennes de Villefranche-sur-Saône, Salma et Elif, et Marion Durand du CFJ Lyon, qui a encadré cet espace de réflexion quelque peu sensible.
Salma et Elif, vous avez voulu parler de la laïcité et de l'identité musulmane au collège. Donc toutes les deux, vous êtes parties, vous me l'avez dit, d'un sentiment d'injustice et de questions qui vous préoccupaient, des questions que vous n'aviez jamais osé poser.
On parle beaucoup entre amis et pour moi, la laïcité, c'est pouvoir montrer son religion. Et du coup, j'essaie de savoir pourquoi est-ce que c'est qu'on doit cacher tous les signes ostensibles.
On a compris.
Voilà.
En fait, c'était très important pour nous parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur les femmes voilées, du coup, vu que c'est notre cas. Enfin, vu que c'est mon cas plutôt.
Donc, du coup, vous êtes allé discuter avec la principale adjointe pour évoquer ces questions-là. Est-ce que vous y seriez allé si vous n'aviez pas eu de micro et puis ce reportage à faire?
Je pense pas, parce que pour nous, le principal ou la principale adjointe, c'est des hauts placés dans l'établissement. Et du coup, quand on va leur demander une question, c'est pour que ce soit un truc d'important. Mais là, vu qu'on a eu ce micro dans les mains et ce statut de journaliste, on a pris en confiance. Et quand on leur parlait, ils nous écoutaient. Car ils devaient nous écouter, car nous étions journalistes.
En fait, je pense que c'était pas nous qui leur parlaient, mais c'était des journalistes qui allaient passer en France Inter. C'est pour ça qu'on a eu vraiment le courage de pouvoir parler.
Eh bien, je vous propose d'écouter votre interview.
Moi, je pense que dans l'idée de laïcité, il y a d'abord l'idée de neutralité, c'est-à-dire s'assurer qu'il y a une certaine neutralité de position, en particulier sur les questions religieuses, dans l'espace public. Et du coup, l'école, c'est un espace public. Et parce qu'il y a cette neutralité où chacun, nous avons le droit d'avoir des convictions, mais qui restent dans l'ordre de l'intime, qui ne s'affichent pas. Donc, en fait, des tenues neutres. Mais aussi pour apprendre aux élèves qu'en fonction du contexte et d'où on est, on ne s'habille pas pour aller travailler comme on s'habille pour aller à la plage, par exemple. On ne doit pas savoir, autant toi que moi, ce à quoi on croit. Alors, je comprends le flou parce que il y a des tenues aujourd'hui qu'on peut dire équivoques ou assimilées à. C'est pour ça que je pense que c'est important qu'on reste sur des tenues basiques, neutres au maximum.
C'est juste pour la neutralité, oui, c'est ça. Mais quand la plupart du temps, je vois toujours la même fille avec une croix sur le cou et personne ne fait attention, comme si toute l'attention était focalisée que sur les bandeaux, alors, les voiles, comme si c'était de l'actualité. Eh
bien, c'est très pertinent ce oui. que tu dis, et que ça se traite, ça doit être traité de la même façon. Oui. Et alors là, on parle des tenues et en particulier des robes longues, mais il y a quelques années, c'était très à la mode, alors je ne sais plus si je vais le dire correctement, mais le crop top, tu vois, qui en fait n'était pas une tenue non plus adaptée. Donc là, on parle des tenues trop longues, et là, moi, je te parle des tenues trop courtes. Voilà, donc nous, notre rôle, c'est aussi de permettre à chacun de comprendre que selon le lieu où on est, eh ben, il y a des tenues qui sont attendues. Et c'est tant ce que tu me dis, hein ? Et on en reparlera parce que je pense que ces questions-là méritent qu'on prenne le temps. Ça m'interpelle de t'entendre dire que tu attends de quitter le collège pour être toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire être soi-même ? Donc voilà, et puis la laïcité en France, elle s'exprime aussi à travers la loi, une loi qui a été pensée, construite et avec des règles voilà, qui sont les règles de la laïcité en France. Et
vous êtes vraiment persuadé que c'est le micro France Inter qui a tout fait ? Que vous n'auriez jamais pu en parler librement dans oui. un échange.
Il aurait fallu
un
une grosse confiance pour aller affronter. Parce que déjà, on essaie d'en parler avec la CPE.
Mais affronter ou discuter ? Affronter, c'est affrontement. On peut aussi échanger.
J'ai dit affronter, là ?
Ouais, t'as dit affronter.
Désolé.
Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tu penses qu'il peut y avoir débat d'idées assez, avec deux positions qui sont contraires.
Ouais, parce que le fond, déjà, de la situation, c'est la laïcité, donc c'est la neutralité. Il faut respecter ça dans tous les cas. Je pense que les personnes ne se cultivent pas assez et se concentrent sur les préjugés et les informations que font passer les médias. On voit par exemple ces dernières semaines que le sujet de l'abaya, avec le titre « L'abaya s'impose », est beaucoup exprimé et beaucoup de personnes qui veulent parler de ce sujet en parlent mal. Par exemple, une abaya ou un kimono n'est pas forcément religieux.
Quelle perception vous avez du métier de journaliste avant l'expérience interclasse ?
Bah moi, je croyais en fait qu'ils avaient un métier très facile. Mais après qu'on a fait les montages, surtout de Madame Pérefouillé, ça avait duré vraiment longtemps. J'ai beaucoup coupé, j'ai écouté l'interview plusieurs fois. Et faire l'interview avec Salma dans son bureau aussi, c'était vraiment différent. Et du coup, on a pu comprendre que ce n'était pas un métier si facile que ça.
Et c'est en devenant protagoniste de l'information que l'on s'en rend compte. C'est pour cette raison qu'Interclasse reste au contact des élèves toute la saison. La religion et la culture au sens de connaissance est aussi un sujet qu'ont voulu explorer les troisièmes du collège Victor Hugo à Marseille, mais sur un mode décalé. Une chronique qui a demandé un travail de documentation, puis d'écriture, puis de pratique du micro. Ça dure 3 minutes à l'écoute, mais c'est 3 mois de travail.
Alors bonjour à tous et à toutes, je suis Anan et aujourd'hui on a décidé de s'intéresser au thème de l'eschatologie.
Attends, mais déjà ça veut dire quoi eschatologie ?
Ah oui, alors pour toi Skander, et pour ceux qui ne connaîtraient pas eschatologie, c'est le terme qui signifie la science de la fin des temps. Et plus précisément, c'est la fin du monde à travers ce que pensent différentes religions.
Donc on va parler de la fin du monde, c'est pas hyper joyeux quand même.
Oui c'est vrai, mais c'est intéressant de savoir comment les religions perçoivent la fin du monde alors qu'on parle de plus en plus de l'urgence climatique et de ce qu'il risque de nous arriver.
Allons-y, du coup, toi, tu nous parleras du judaïsme, Rama.
Oui, je vais vous raconter ce que m'a dit un rabbin. Et toi, tu vas nous expliquer comment c'est pour les chrétiens catholiques. Puis, Skander, lui, c'est du point de vue des musulmans raconté par un imam.
Alors déjà, on peut se poser une première question. Est-ce que la fin du monde existe pour ces trois religions ?
En fait, pour les personnes juives, c'est un peu oui et non. C'est une fin du monde dans le sens où le monde que l'on connaît actuellement va changer. Et là, je cite le rabbin, il ne restera que le côté spirituel de notre vie et on n'aura plus de besoins matériels. C'est-à-dire qu'on ne se demandera plus comment gagner plus d'argent, mais comment aider au mieux son prochain.
Ah bah tiens, c'est similaire chez les catholiques.
Et ça, c'est Père Philippe Rochat de Marseille qui nous l'a dit. Après la fin du monde, on aura une vie éternelle au plus près de Dieu et le plus important sera de lui donner le plus d'amour.
Et au contraire, dans l'islam, une fois la fin du monde passée, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir une vie matérialiste. La vie qu'on a actuellement, elle doit être dédiée à la spiritualité. C'est maintenant qu'il faut faire des bonnes actions et prier.
Ok, donc la fin du monde existe, mais comment ça se passe ? Est-ce que la terre va exploser et tout le monde va mourir ?
Mais non, pour les chrétiens, un des signes annonciateurs de la fin du monde, des guerres, des batailles, des tremblements de terre.
Eh ben justement, tu parles de guerre entre nous, alors que dans le judaïsme, c'est la paix dans le monde qui annonce la fin du monde.
Quand le mal n'existera plus et que le monde ira vers une unicité, il n'y aura plus de jalousie entre les humains. D'accord, mais comment les croyants, ils vivent tout ça ?
Alors dans la religion catholique, il est dit que oui, on sait qu'on va tous mourir. Mais les croyants n'en ont pas peur, parce qu'ils savent que derrière, il y aura la vie éternelle. C'est pas une catastrophe totale, dit le prêtre marseillais.
On sait qu'on sera unis à Dieu de la manière la plus proche possible et être en communion éternelle avec lui.
Là, pour le coup, c'est pareil chez les juifs. La fin du monde est attendue par les croyants parce que, une fois les étapes terminées, ce sera le triomphe de Dieu et de son peuple, donc les enfants d'Israël.
Dans l'islam, les bons croyants n'auront rien à craindre. Contrairement aux mauvais croyants qui savent ce qui les attend et donc qui ont peur de l'arrivée de la fin du monde.
Attendez, ok. Est-ce que ça nous donne des indications sur quand est-ce que cette fin du monde arrive ?
Alors pour les chrétiens catholiques, pas du tout. Et là je cite Père Rochat.
Nul ne connaît le jour et l'heure de la fin du monde.
C'est drôle parce que justement du côté du judaïsme, on sait que ça arrivera avant l'année 6000 depuis la création du monde. Sachant qu'aujourd'hui, on est en 5583. Donc, grosso modo, la fin du monde va arriver dans maximum 220 ans.
Et chez les musulmans, la seule chose qu'on sait, c'est que ce sera un vendredi.
Ok, donc maintenant qu'on a vu tout ça, ce qu'on peut retenir et ressortir, c'est que les trois religions, même si elles ont des différences et des points communs, l'eschatologie est un point central dans chacune des religions.
Et bravo à ces collégiens marseillais qui ont pu travailler avec Mathilde Duranton, diplômée de l'EGICAM, l'école de journalisme de Marseille. Dans le monde de la désinformation, un acteur a grossi cette année, l'intelligence artificielle. Les images détournées par Midjourney font que l'on ne peut plus croire ce que l'on voit, puisque ce que l'on voit n'est peut-être plus la réalité. Pour nous concentrer sur une nouvelle star des médias et des salles de classe, on a évidemment choisi ChatGPT, repéré dans le 15e arrondissement de Paris.
Bonjour. Nous sommes Elliot, Henri, Fabien, David et Éloane et Gauthier, élèves de la seconde 8 du lycée Buffon. Et pour l'émission Interclasse, nous avons choisi d'enquêter sur...
ChatGPT.
Je ne sais pas si vous le connaissez.
Ce site a réponse à tout.
Peut-il faire les devoirs à notre place ? Quelles sont ses limites ? Doit-on interdire son utilisation au lycée ? Et la première personne que nous avons interviewée, eh bien...
Bonjour.
C'est ChatGPT lui-même.
Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI. Je suis un programme informatique utilisant des algorithmes sophistiqués. Mon objectif principal est d'assister les utilisateurs dans diverses tâches, telles que la rédaction de textes, la réponse à des questions, la traduction et bien plus encore.
ChatGPT est donc un outil d'intelligence artificielle développé par une société américaine. Pour mieux comprendre son fonctionnement, nous avons passé un coup de fil à David Chavalarias, expert du CNRS, spécialiste des IA.
Oui, allô ?
La première chose qu'on lui a demandé, c'est de nous donner sa définition des IA.
C'est un programme informatique qui essaie de restituer des capacités humaines dans le traitement de l'information, mais via la machine. On parle d'intelligence artificielle quand cette machine-là arrive à reproduire ce que les humains font quand ils accomplissent des tâches de haut niveau.
ChatGPT est particulièrement populaire parce qu'il est facile d'accès. N'importe qui peut se créer un compte et utiliser cet outil en ligne sans avoir besoin d'utiliser un logiciel. Plutôt pratique, mais attention à ne pas tout reprendre. Selon David Chavalarias, ChatGPT peut aussi se tromper.
Il est important de comprendre, c'est que pour utiliser une réponse de ChatGPT, il faut déjà connaître le sujet pour essayer d'être capable de départager le vrai du faux, et surtout après aller revérifier ce qui est dit. Et donc, d'une certaine manière, ChatGPT peut être très bien pour faire des pré-synthèses de quelque chose qu'il faut retravailler, pour vous donner des pistes de recherche pour aller chercher après sur d'autres ressources, mais il ne faut pas prendre les réponses pour argent comptant.
Pour autant, il peut être très tentant d'utiliser ChatGPT pour faire ses devoirs. Par exemple, il peut en quelques secondes fournir un plan de dissertation ou reformuler tout un paragraphe. Mais certaines écoles considèrent cela comme de la triche, comme Sciences Po Paris, qui annonçait interdire l'utilisation de ChatGPT à ses élèves. Nous sommes allés à la rencontre du directeur de la formation et de la recherche de Sciences Po, Sergueï Guriev. On lui a demandé concrètement ce que risque un élève qui rend un devoir fait avec ChatGPT.
Il y a une échelle des sanctions. Les sanctions commencent avec zéro pour cet examen, cet travaux, jusqu'à expulsion. On est très sérieux, on est très strict par rapport au plagiat. Si vous utilisez quelque chose écrit par quelqu'un d'autre, sans référence, sans citation, c'est plagiat. Mais on a demandé aux étudiants que s'ils utilisent ChatGPT, ils ajoutent les citations. Il faut faire les références. Ça, c'est l'idée. On n'a pas interdit ChatGPT, on a interdit plagiat.
Sciences Po veut surtout s'assurer que ses élèves continuent de réfléchir par eux-mêmes et de développer leur esprit critique. Mais comment Sciences Po peut-il savoir si un élève a utilisé ChatGPT pour faire ses devoirs ? Sergueï Guriev nous explique qu'il fait surtout confiance à son propre jugement et celui des professeurs de Sciences Po pour reconnaître une copie rédigée par ChatGPT.
Il faudrait donc faire confiance au radar des professeurs pour détecter les copies qui utilisent ChatGPT. Nous avons voulu faire le test dans notre CDI avec M. Kellen, notre professeur de français.
Voici deux textes qui répondent à la même question. Un écrit par ChatGPT, l'autre écrit par un élève. Et ce qu'on va vous demander de faire, c'est de donner quel texte a été écrit par l'élève, quel texte par l'intelligence artificielle, et de surtout nous expliquer comment est-ce que vous reconnaissez le texte. La question était, en quoi le personnage de Candide peut-il être considéré comme énervant ?
Alors déjà, la première difficulté, c'est que les deux textes ne contenant aucune faute d'orthographe, il est très difficile d'identifier le texte écrit par l'élève. On a des phrases qui sont relativement longues et complexes dans le premier, ce qui ne correspond pas au style de l'élève. On a plus de répétitions dans le deuxième, donc ce qui pourrait éventuellement être identifié comme celui de l'élève. Donc on va dire que je part du principe que c'est la B, celle qui est écrite par l'élève.
Perdu !
On peut retenir deux choses de notre enquête. Premièrement, il est possible de tricher avec ChatGPT sans se faire attraper. Les outils informatiques pour déceler la triche ne sont pas encore tout à fait au point, ni le radar de certains professeurs. Deuxièmement, ChatGPT peut être très utile pour nous aider à faire des devoirs. Il peut donner des idées supplémentaires pour des dissertations, et il est utile de savoir s'en servir car de plus en plus d'outils de ce genre font partie de notre monde. Mais il faut apprendre à s'en méfier, car il peut donner des fausses informations et réduire la capacité à avoir un esprit critique.
Ah, c'est clair, ils étaient contents d'avoir piégé leur prof. Une expérience d'intelligence artificielle menée avec Maël Roudot, diplômé du CFJ Paris.
On parle beaucoup d'intelligence artificielle dans mon lycée, et notamment en ce moment de ChatGPT. Même si les profs veulent pas qu'on l'utilise, on le fait quand même.
Bravo.
Pourquoi une telle hostilité des enseignants, à votre avis ?
Jennifer Elbaz et Karina Chatin de la CNIL pour la réponse.
Merci beaucoup, Emeline, pour cette question. Pourquoi est-ce que les enseignants sont hostiles à l'utilisation de cette intelligence artificielle générative ? Alors déjà, est-ce que quand on utilise cet outil-là, il faut s'identifier ? Je crois que oui. Donc on va inscrire son adresse mail. Bon, ok, très bien. Mais quand on s'identifie, quand on dit quelque chose de nous, quelque part, puisque ça va être lié aux questions qu'on va poser... Elle part où, ces informations, toutes ces données, elles vont où ? Qui s'en sert ? Pour faire quoi ? Où les données sont-elles stockées ? Je pense que les enseignants ont aussi envie de faire en sorte que vous réfléchissiez et que vous construisiez votre pensée plutôt que de récupérer une pensée prête à utiliser comme ça. Et puis, bien sûr, on a une utilisation hyper quotidienne en fait de toutes sortes d'outils comme ça, de manière cachée ou bien de manière explicite. C'est super, mais ces réponses-là qui nous sont données quand on pose des questions, qui a fait le choix des informations à mettre ? Quels choix politiques ont été faits pour apporter les réponses qu'on trouve ? Je pense que les enseignants ont envie que vous posiez ces questions-là. Alors, peut-être que certains enseignants vont même vous inciter à vous poser des questions comme ça et puis à utiliser l'outil pour comprendre comment une pensée se construit. Je pense qu'on peut aussi se poser la question de l'influence que ça a. C'est-à-dire que les réponses qu'on a quand on pose des questions sur ce type d'outil, est-ce que les réponses qu'on obtient nous font penser autrement ou pas.
Qu'est-ce que vous nous conseillerez à la place ?
À partir du moment où on s'identifie, regardez la politique de confidentialité de la société qui est concernée. Qu'est-ce qu'elle fait de nos données ? Comment elle les gère ? Est-ce qu'on peut exercer nos droits auprès de la société à laquelle on fait appel quand on utilise ce genre de service ?
Jennifer Albaz, merci. Karina Chatin également. Et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous avec la CNIL.
J'ai écouté ce qu'on m'a dit, puis j'ai fait l'inverse. They don't care about us, babe. Je redeviens gosse, assis sur le pilori, à acheter des toiles dont je ne connais plus le prix. Seul dans un bus de nuit, 12 heures de route sans réseau, sans wifi. Aucun moyen de savoir où je suis. Mon âme s'en va guérie. Perdido entre los bañanos. Je n'ai pensé qu'à ça. L'impression de vivre les tableaux de mon papa, garni de ses âmes qui ne croient qu'en ce qu'elles ne voient pas. Baya, 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 baya. La peur m'empêche de grandir. Mon propre guide n'a cessé de me dire:
ne t'en va pas, ne t'en va pas. Si tu y vas, attention à toi. J'ai été là-bas, vécu là-bas, et j'y ai vu des gens de chez moi. Ne t'en va pas, ne t'en va pas. Si tu y vas, attention à toi. J'ai été là-bas, vécu là-bas, et j'y ai vu des gens de chez moi.
S'il te plaît, je voudrais aller à Bahia. Luigi lui demande pas l'autorisation, il y va et il nous le chante sur Inter. S'il vous plaît, Julie Pietri, pouvez-vous venir à Agen ? La journaliste grand reporter de la rédaction internationale de Radio France n'a pas hésité à répondre favorablement à la demande des collégiens de Louis Ducos-du-Horon pour parler de son métier de journaliste.
Quel est le reportage le plus extrême que vous avez fait ?
Ça veut dire quoi extrême ? Tu veux dire quoi par là ?
Le plus dur, le plus extrême.
Le plus dur que j'ai fait, c'était il y a quelques années déjà, à la frontière entre la Birmanie et le Bangladesh, je ne sais pas si vous voyez où c'est. Il y avait à ce moment-là des gens qui fuyaient donc la Birmanie pour aller se réfugier dans un autre pays. Donc c'est des gens qui s'appellent les Rohingyas. C'était vraiment très dur parce qu'ils avaient été persécutés. Et moi, j'arrive là-dedans, je vois des gens arriver par milliers devant moi, dans des conditions très dures. Ils avaient été frappés, ils avaient été maltraités, et surtout ils avaient soif, ils avaient faim. Enfin, vraiment, c'était terrible. Donc je vois ça, je suis avec un technicien qui est avec moi à ce moment-là. Il y a une famille, et puis là, je vois qu'ils commencent tous à pleurer. Alors, je regarde, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, je sors un peu, je suis plus vraiment dans mon reportage. J'ai toujours mon micro, je suis toujours comme ça. Je vois qu'il se passe quelque chose de très grave. Et je comprends que leur enfant est en train de mourir de soif, de déshydratation. Et là, j'ai continué à tourner le reportage, mais j'étais plus vraiment dedans, quoi. Je savais plus ce que je faisais. Je regardais le truc, je pleurais. Je me rappelle que je pleurais, etc. Je me disais, mais... Voilà, c'est marrant parce qu'on dit souvent qu'on est extérieur à notre sujet, etc., qu'on essaye de mettre une distance, mais à ce moment-là, j'en avais plus du tout, du tout, du tout, du tout. Le technicien qui était avec moi, qui s'appelle Marcos Daras, à un moment donné, il m'a dit « ça suffit ». Il m'a dit « Julie, tu viens ». Il m'a sorti de là et on est rentrés tous les deux. On n'a pas parlé pendant tout le trajet de retour en voiture. Moi, je pleurais, lui, il n'était pas bien non plus. Et je pense que ce qui avait été terrible à ce moment-là, c'est que je me suis sentie mais tellement impuissante. Moi, je me rappelle très bien ce que j'ai fait à ce moment-là. J'ai donné de l'eau. Je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis pas médecin. Je suis là, j'assiste à ça. Mais quand je dis que c'est le plus extrême et le plus fort que j'ai fait, c'est parce que j'en suis pas sortie complètement indemne de ce reportage. Il a fallu au retour, et j'ai pas de honte à le dire, que il est ouf, mon chef de service de l'époque, qui est Eric Valmire, donc qui encadre Interclasse, qui avait entendu le reportage. Il m'a dit: Julie, je pense qu'il faut que tu parles à quelqu'un quand tu rentres. Et c'est ce que j'ai fait, et heureusement que je l'ai fait, parce que je pense que sinon j'aurais pas été capable de continuer à travailler comme je l'ai fait les années après. Il fallait que ça sorte, il fallait que je raconte ce que j'avais vécu.
Comment faites-vous pour déterminer si une information est vraie ou fausse ?
Ah, ça, c'est super important. Je pense que la règle essentielle, c'est de ce qu'on appelle croiser ses sources. Ça veut dire, il faut jamais, même si la personne qu'on a en face de soi, elle nous est très sympathique, que parfois ça arrive qu'on est plutôt d'accord avec ce que dit la personne, parce qu'on partage ses idées, etc. Mais il ne faut jamais se dire « Ok, c'est bon, je m'arrête à ça. » Il faut toujours aller vérifier. Si elle parle de quelque chose, il faut aller vérifier que ce dont elle parle, c'est vrai. C'est pas parce qu'elle le dit que nous, on peut se dire « De toute façon, c'est elle qui le dit, donc c'est pas ma responsabilité de laisser ce son-là. » Bah si, il faut aller vérifier. C'est comme ça que ça marche. Et en plus, moi, je me suis rendu compte que plus on vérifie, c'est-à-dire, parfois, on n'a pas le temps, donc il faut toujours vérifier, mais parfois, on vérifie avec, par exemple, une autre source, deux autres sources. Mais plus on accumule de sources, et plus on se rend compte, en général, que c'est plus compliqué que ce qu'on pensait au début. Donc ça met de la nuance dans le sujet.
Comment mettez-vous la distance entre les moments compliqués comme pendant la guerre ?
Alors, ça c'est une vraie question. Moi, j'ai jamais réussi à mettre la distance. Je sais pas faire, et je me rappelle que j'ai un collègue qui m'a dit un jour: « Julie, faut que tu te blindes, parce que faut que tu te protèges. » Et je me suis dit: « Bah ouais, mais non, je n'y arrive pas. » C'est-à-dire que quand, là on peut parler de la guerre, mais on peut parler aussi d'une catastrophe naturelle. J'étais en Turquie il n'y a pas très longtemps, pour le tremblement de terre qui a fait énormément de morts. Quand on a en face de soi une personne dont le visage se déforme de douleur et de peine devant soi, moi je ne sais pas faire. Ce qui est important après pour moi, c'est de réussir à redescendre. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure aussi. C'est-à-dire être capable après de prendre de la distance avec ce qu'on a vu, pour le coup, de réfléchir et de ne pas se laisser embarquer par les émotions qu'on a eues à ce moment-là. Et ça, je pense que je sais le faire. C'est pour ça que j'arrive à faire ce travail. Et la sensibilité que j'ai en reportage, je vais aller plus loin. Je pense que si je la perds, ça veut dire qu'il faut que j'arrête ce travail. Parce que moi, la sensibilité, ça fait partie de moi et ça fait partie de ce que je mets dans mes sujets. Le jour où je suis complètement hermétique, que ça ne me fait plus rien d'avoir des gens qui sont en souffrance, etc., ça veut dire que c'est fini pour moi, le reportage. Il faudra vraiment que je m'interroge pour faire autre chose, quoi.
Qui est-ce qui paye le gasoil, le trajet, l'avion, tout ?
C'est pas moi.
Ok.
Je suis remboursée, hein.
Ah, c'est bon, ok.
Ouais. Je suis remboursée pour l'essence, tout ça, bah oui.
D'accord. Cela dit, c'est une vraie question pour les journalistes qui ne sont pas encore engagés dans une rédaction qu'on appelle les freelance pigistes, qui, eux, souvent, doivent avancer des frais.
Moi, j'ai la chance de travailler pour Radio France où tout ça est pris en charge. Je suis salariée, donc je ne sors rien de ma poche. Mais ce n'est pas le cas de tous les journalistes en France.
Okay.
Est-ce que des fois, dans des reportages, il y a des gens qui vous reconnaissent ?
Ben non. Mais c'est trop bien. Non, mais c'est trop bien. En plus, moi, j'ai un nom. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. Vous êtes trop jeune. Bon, je m'appelle Julie Pietri et c'est le nom d'une chanteuse des années 80. Ça m'est déjà un truc rigolo. Ça m'est déjà arrivé qu'on m'attende dans une gare en France avec un panneau écrit Julie Pietri. Du coup, il y avait des gens autour qui s'arrêtaient parce qu'ils pensaient qu'ils allaient voir débarquer la vraie. Alors moi, je leur dis mais je suis la vraie quand même. Hein. Enfin, je suis une autre vraie. Mais non, les gens ne me reconnaissent pas et je crois que c'est ce que j'aime.